Bonjour, très heureux de pouvoir vous apporter quelque chose de la part du Seigneur aujourd'hui. Vous savez, quand un serviteur de Dieu prêche, très souvent, il parle par rapport aux expériences qu'il fait. Et vous savez, ça fait maintenant depuis 68 que je connais le Seigneur et des expériences, j'en ai faites, des positives, des négatives. Mais je dois avouer que même les négatives ont servi à quelque chose dans ma vie. Parce que chaque fois que j'ai fait une bêtise, eh bien, il y a eu un moment où je m'en suis rendu compte et où je me suis humilié devant Dieu. Et puis, il m'a relevé, il m'a aidé et j'ai pu aller plus loin avec lui. Et ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose qui concerne tous les chrétiens, en fait. Pas seulement moi, mais vous aussi, certainement. Donc, ne vous sentez pas accusé ou jugé. Ou ne pensez pas que j'ai de l'amertume sur quoi que ce soit, simplement, voilà, j'ai vécu des choses et puis je voudrais partager avec vous des expériences afin de vous aider à vous en sortir, à vous sortir de ce problème qui est commun à tous les chrétiens. Malheureusement, mais c'est comme ça, Dieu nous a créés d'une certaine manière et puis nous avons cette possibilité de tomber dans ce truc-là. Alors je voudrais que Dieu nous bénisse pendant que vous écoutez ce message, vous et moi, afin que tout passe bien, que la puissance du Saint-Esprit mette tout en lumière et que tout soit bien dans vos cœurs, aussi bien que dans le mien. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de bénir ces paroles que je vais prononcer ce soir et que chacun puisse les recevoir pour lui-même et que chacun puisse réajuster toute chose d'après la parole, au nom de Jésus. Amen. On va lire un tout petit passage dans Nombre 16. C'est l'histoire de Corée, fils de Jitsear, fils de Kehath, fils de Lévi. Il se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab et de On, fils de Peleth. Vous y êtes? Nombre 16. Ils étaient tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qu'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Voilà. Moïse, il est tombé sur son visage, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi dire. On parle souvent de cette révolte de Corée. Dans le Nouveau Testament, on en reparle de nouveau, c'est quelque chose qui a frappé la conscience de beaucoup de monde. Et je voudrais aborder ce sujet aujourd'hui parce qu'il y a un esprit qui s'est infiltré dans les églises et qui cherche à envoyer le plus de personnes possible dans le séjour des morts. Comme je vous l'ai souvent déjà dit, nous sommes sous le quatrième sceau. Et sous le quatrième sceau, vous verrez ça dans l'Apocalypse, il y a un écrit, vous savez, un sceau, d'abord il y a un écrit, c'est un rouleau, n'est-ce pas? Et puis il y a eu un sceau qui fait que ce qui était écrit sur ce rouleau était secret, caché. Et l'agneau de Dieu était le seul à ouvrir, n'est-ce pas? À avoir la puissance, il était assez saint pour pouvoir ouvrir, n'est-ce pas? Casser ce sceau afin qu'on puisse lire. Et ce qu'il a lu sous ce quatrième sceau, c'est ce qui concerne notre époque. Sous ce quatrième sceau, cet écrit affirme, l'écrit qui est là, sous le quatrième sceau, affirme qu'à notre époque, la mort et le séjour des morts parcourent la terre et qu'ils ont reçu un pouvoir, celui de tuer un quart de la terre. Il y a donc un danger de mort pour un quart de la population mondiale en ce moment. Et dans l'Église, ce danger est bien réel, parce que on est encore dans ce monde. On n'est pas du monde, mais on est dans ce monde. Il ne faut pas se voiler la face, n'est-ce pas? Tourne mon micro un peu autrement, peut-être vous m'entendez mieux comme ça, je ne sais pas. Hein? Dans l'Église, ce danger est bien réel. La mort frappe, et la plupart du temps, la mort frappe à coups de langue. Corée et sa troupe sont l'exemple parfait de ce qui arrive à ceux qui persévèrent à dire mal, maudire. Corée et sa bande, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pardon, j'espère que vous m'entendez encore, j'ai eu un petit problème technique. Corée et sa bande ont attaqué avec leurs paroles et ils ont exprimé à haute voix ce qu'il y avait dans leur cœur. Et ils ont critiqué Moïse et Aaron. Bon. Marie, la sœur de Moïse, elle ne s'était pas gênée aussi pour critiquer Moïse, son frère. Mais elle avait mesuré ses paroles. C'est pourquoi Dieu l'a pardonné dans la suite. Par contre, Corée, la terre s'est ouverte et là, toute sa troupe, Corée, toute sa troupe, ils ont déchaîné la fureur, une fureur qui est devenue incontrôlable, vous voyez. La rébellion, donc, elle peut se situer sur deux niveaux. Certains peuvent tomber là-dedans, maudire, dire mal, parler mal, mais être ensuite rétablis dans leur position, tandis que d'autres sont avalés par le séjour des morts. Vous lirez dans le chapitre 16. Parce que ils ne se retiennent pas du tout dans leur rébellion. Corée et son équipe n'ont pas seulement parlé mal contre Moïse et Aaron, mais ils les ont censurés sévèrement. Moïse ne savait plus quoi faire. Alors il s'est prosterné à terre. C'était très grave. Ils ont dit à Moïse, c'en est assez. Pourquoi est-ce que tu t'élèves contre l'assemblée de l'Éternel? C'est un peu comme s'ils avaient dit, nous reconnaissons bien que Dieu se trouve au milieu de cette assemblée, mais nous ne te reconnaissons pas toi. Nous ne reconnaissons pas ton autorité. Tu es un usurpateur. Tu penses nous crever les yeux? Ils disent un peu plus loin. Tu penses nous crever les yeux? Voilà des gens qui veulent se soumettre directement à l'autorité de Dieu. Ils reconnaissent que Dieu est là, dans l'assemblée, tout ça, sans se soumettre à l'autorité que Dieu a confiée à un homme à la tête de cette assemblée. Bon. Ils vivent quand même, cependant, selon le principe de la révélation. C'est ce qu'ils croient. Voilà, c'est juste. C'est l'assemblée de l'Éternel. Ils s'en sont conscients. Mais vous voyez, celui qui est soumis à l'autorité, il doit contrôler sa langue. Celui qui est soumis à l'autorité, il n'ose pas parler à la légère, dire n'importe quoi. Est-ce que vous vous souvenez de Paul? Il y a eu une histoire terrible avec Paul quand il a comparu devant le conseil pour être jugé. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il a parlé au souverain sacrificateur et en tant que prophète, il a dit « Dieu te frappera, muraille blanchie ». Vous trouvez ça dans Actes 23:3. Paul était juif. Et quand il a su que l'homme à qui il avait dit ça était le souverain sacrificateur, et il se retourne et il dit « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Verset 5. Vous voyez, il a dit, même en étant oint par le Saint-Esprit, en pleine onction de prophétie, dire quelque chose de mal au chef de ton peuple, tu ne peux pas, il ne faut pas. Paul faisait donc très attention à ce qu'il disait. Il ne savait pas que c'était le souverain sacrificateur. Donc, il a dit, ah, je ne savais pas. Il contrôlait sévèrement sa bouche. Quand on lit Pierre, on voit qu'il mentionne ceux qui méprisent l'autorité et il les mentionne immédiatement après ceux qui se livrent au péché que leur inspire leur passion charnelle. Si vous regardez l'attitude des anges aussi, il se trouve que les anges avaient été par le passé sous l'autorité de certaines gloires, de certaines... Ils étaient soumis à des anges supérieurs. Ces anges supérieurs sont tombés et les anges qui autrefois avaient été soumis n'ont pas osé porter un jugement injurieux contre ces gloires qui étaient pourtant déchues. Ils avaient des raisons de le faire, ils ne l'ont pas fait. C'est pour les mêmes raisons que nous devons vraiment veiller à ne pas injurier les autres, dire du mal, sans parler d'injurier, mais dire du mal. Pensez à David. Lui, il a gardé sa position, pourquoi? Parce qu'il reconnaissait que Saül était le oint de l'Éternel. Vous savez, la puissance de Satan, elle est établie par tous ceux qui ne restent pas à leur place. Pierre, il prend l'exemple de ces anges-là pour démontrer le fait que nous devons savoir garder notre place, sinon on rentre dans le jeu du diable. Avec toutes sortes de bonnes raisons, peut-être des fois très spirituelles, mais bon. C'est faux, il ne faut pas le faire. Ça ressemble à la vérité, mais c'est quand même le mal, c'est quand même faux. Il y a deux éléments qui font perdre aux chrétiens leur puissance. Premièrement, c'est le péché. Et deuxièmement, c'est le manque de respect envers l'autorité. Et ça, dans le monde, c'est gros comme une maison. Maintenant, vous voyez à la télévision, on se moque du président de la République, on se moque de tout le monde, de toutes les autorités, du pape, de tout le monde, absolument de tout le monde. Et moi, j'ai ri avec ça. C'est terrible. Chaque fois qu'un chrétien parle ouvertement contre un autre ou contre une autorité qui a été instituée par Dieu, il perd une partie de sa puissance. C'est vrai. L'effet que les paroles ont sur la puissance, ça dépasse notre conception, notre entendement. On ne se rend pas compte les paroles qu'on prononce. C'est déjà très mal de mal penser au sujet d'un frère ou d'une sœur, ou de quelqu'un qui est une autorité placée par Dieu. Parce que la Bible nous dit que celui qui a conçu dans son cœur, il a déjà commis le mal. Hein, on pourrait lire à ce propos, si vous voulez, on peut lire Matthieu chapitre 12. Si vous voulez, ouvrez votre Bible, Matthieu 12, verset 34, où il est dit: race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et hein, verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes leurs paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. C'est terrible. Ça signifie qu'il y a une certaine différence entre la parole et la pensée, vous voyez. Les pensées, la pensée, ça peut encore rester secret, ça peut rester caché, c'est caché à l'intérieur. Mais lorsque ta pensée, elle est prononcée par la parole, alors c'est nu. C'est nu. Je vous dis, mes frères et sœurs, les chrétiens de nos jours perdent moins de puissance par leurs actes, par les péchés, tout ça, que par leurs paroles. Lorsque des paroles mauvaises sont prononcées contre un frère ou contre une sœur, l'Église perd de sa puissance. Vraiment, vraiment. Elle se met en danger de mort. Elle met en danger de mort l'unité intérieure. Presque toutes les difficultés que connaissent les Églises, elles viennent de là, des méchantes paroles. Alors, cessons de prononcer des paroles qui blessent. Si on fait ça, on élimine un grand nombre de problèmes dans l'Église. L'Église, elle a un urgent besoin de confesser ses péchés devant Dieu. L'Église, elle a un urgent besoin de trouver sa position de pardon. L'apôtre nous dira plus loin, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Jacques 3, 11. Oh, que Dieu mette une sentinelle au-dessus de nos lèvres. Que Dieu mette une sentinelle aussi au-dessus de nos cœurs. Parce que vous savez, la rébellion, la calomnie, tout ça, ça vient de la raison. Cam, il avait une bonne raison pour se moquer de son père, Noé. Parce que son père était nu, vraiment. Bourré complètement, ivre mort, nu, c'était minuit dans un temps. Marie, la sœur de Moïse, elle avait de bonnes raisons de critiquer son frère Moïse. En effet, il avait épousé une femme étrangère. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas en Israël. Elle avait... Moïse, le grand législateur, il fait ça. Ah, elle avait des raisons de critiquer. Mais voyez, mes frères et sœurs, celui qui est dans le Saint-Esprit, il ne vit pas sous le régime de la raison. Nous tous, nous vivons sous le régime de l'autorité, puisque nous avons choisi Jésus comme maître, et non pas, nous ne vivons pas sous le régime de la raison. Dathan, Abiram, ils disposaient d'une raison légitime. Oui, tu nous as fait des belles promesses, mais alors on t'a suivi, puis on n'a pas vu Dieu, on n'a rien vu de tout ce que tu nous avais promis, rien du tout, hein. C'est pas un pays où coule le lait et le miel, c'est pas là où tu nous as conduit, on n'a rien trouvé avec toi. Est-ce que tu penses nous crever les yeux? Tu crois qu'on voit pas clair dans ton truc? Nombre 16, 14. C'était juste ce qu'il disait là, la raison, vous voyez. On voit clair, tu nous as trompés. Dieu n'est pas avec toi. En tout cas, on ne voit rien du tout qui prouve que Dieu est avec toi. Et puis, plus ils en parlaient entre eux, plus ils y réfléchissaient tout seuls en ruminant tout ça, plus ils trouvaient justifié de ne pas faire confiance à Moïse. N'est-ce pas ainsi que vous pensez? Quand vous parlez mal contre un frère, contre une sœur, en qui vit le Saint-Esprit de Dieu, faites attention. Vous êtes en danger de vous trouver sur le chemin du séjour des morts. Dans 1 Corinthiens 11, 30, il est dit, c'est pourquoi beaucoup parmi vous sont morts, parce que vous ne savez pas discerner le corps de Christ. Votre sœur, votre frère, que vous critiquez, avec raison, le sang de Jésus l'a purifié de tout péché. Et vous êtes là, frère de celui qui accuse, frère du diable. Vous ne devez pas le faire. Si vous le faites, après vous prenez la Sainte Cène, ne vous étonnez pas si tous les problèmes que vous avez qui vous conduisent au séjour des morts, parce que vous persévérez là-dedans. Les gens du monde, ils vivent tous dans le domaine de la raison. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les yeux de votre raison soient crevés, afin que vous puissiez suivre Jésus par la foi qu'il a purifié le frère, qu'il a purifié la sœur, que même si elle fait des bêtises comme Moïse a fait des bêtises, que même si elle a fait des bêtises comme Noé a fait des bêtises, que même si, eh bien, il est pur par le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui gouverne ta vie? La raison ou l'autorité de la parole? Si tu es éclairé par Jésus, tu es aveuglé par sa lumière, ta raison, elle est mise de côté. Tu ne vois plus ton frère comme un pécheur. Bien sûr, tu peux voir et penser, mais tu dis, non, j'ai une sentinelle au-dessus de mon cœur, je ne parlerai pas, je ne dirai rien. Paul, quand il a rencontré Jésus, il était frappé de cécité. Il ne s'est désormais plus jamais appuyé sur sa raison. Moïse, il avait ses arguments. Moïse, il avait ses raisons. Mais il a vécu en obéissant à Dieu, vous comprenez? En se plaçant au-dessus de la raison. Si tu vis sous l'autorité de Jésus, tu ne marches pas par la vue. Tes paroles ne seront contrôlées que quand ta raison sera sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais elle ne peut être sous le contrôle du Saint-Esprit que si tu invoques Dieu sur ta vie. Alors, je te pose la question, qui es-tu? Que penses-tu en ce moment, pendant que tu écoutes cette prédication? Est-ce que tu penses que ce message, c'est pour les autres? Peut-être que tu penses que moi-même, moi, Michel Janton, je devrais bien mettre en pratique ce message. Tu as raison, tu as raison. C'est pourquoi Paul dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il prenne le pain et le vin. Tu as raison, mais éprouve-toi toi-même devant Dieu. Est-ce que tu peux juger? Est-ce que tu peux critiquer? Est-ce que tu peux condamner? Est-ce que tu peux rejeter un frère, une sœur pour qui Jésus a donné son sang à la croix? Discerne le corps de Christ. Ton frère, ta sœur peut avoir fait quelque chose que tu n'aimes pas du tout, comme Moïse qui avait épousé cette étrangère, comme le souverain sacrificateur qui a fait une horreur, ou comme Noé qui était nu. Peu importe les raisons, peu importe les raisons, manifeste de l'amour et non de l'amertume. C'est une loi. C'est une loi. Et c'est une bonne loi, comme toutes les lois de Dieu. Bonne parce qu'elle t'assure à toi la bénédiction, c'est-à-dire l'approbation de Dieu. Elle est bonne parce qu'elle empêche la division dans le corps de Christ. Elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu et qu'on ne discute pas avec Dieu, on obéit. Demandez à Dieu de placer une sentinelle au-dessus de vos lèvres. Demandez à Dieu de placer une sentinelle au-dessus de votre cœur. Repentez-vous, renoncez à la raison et marchez avec amour et avec foi. Que Dieu vous bénisse dans votre décision. Merci Jésus pour ce que tu m'as inspiré ce soir, qui me fait du bien et qui fait du bien à mes frères et sœurs aussi, je le crois, et permet que un esprit de réconciliation puisse se saisir de moi, mais aussi des deux qui écoutent là. Au nom de Jésus-Christ, la paix. La paix. Amen. Amen. À bientôt. Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.